Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, les transports régionaux gratuits pour les moins de 26 ans cet été, une interview avec Acrimed, Action Critique Média, pour analyser le traitement médiatique du sujet politique. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un portrait de bénévoles pour fêter les 40 ans de Canal B aujourd'hui avec Thierry, c'est un peu notre Géo trouve tout. Et puis deux recommandations, une rencontre littéraire, une soirée antiraciste. Bienvenue dans l'Arène. Vous le savez, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec l'info du jour, une parmi d'autres repérées dans la presse locale. Alors aujourd'hui, renouvellement d'une opération du Conseil régional de Bretagne pour la quatrième année consécutive. Transports régionaux gratuits pour les moins de 26 ans, ça commence mercredi 10 juillet et jusqu'au 21 septembre. Ce sont 50 000 billets gratuits qui seront proposés chaque semaine sur les trains, les cars, mais aussi les bateaux du réseau Brest-Go. Le public concerné, eh bien, il s'agit des collégiens, lycéens et apprentis. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, que ça exclut les jeunes actifs. Il suffit ensuite de réserver son billet la veille du trajet et puis de présenter un justificatif ou une carte Brest-Go solidaire au moment du contrôle. On précise qu'une autre offre du même genre est proposée partout en France pour les moins de 28 ans cette fois. C'est le Passerail qui permet de voyager tout l'été en illimité sur les TER et Intercités à un tarif de 49 euros par mois. Allez, après cette info, on passe à l'interview du jour. Nils Solari, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes formateur à l'éducation aux médias et puis salarié de cette association qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média. Vous êtes aujourd'hui installé à Rennes et on va parler ensemble économie des médias et traitement médiatique du fait politique. Évidemment en lien avec les élections législatives qui arrivent le week-end prochain, dimanche 30 juin et puis le 7 juillet puisque ça se déroule en deux tours. On commence par représenter Acrimed en quelques mots qui se veut être un observatoire des médias.
Oui, tout à fait. Observatoire né en mars 96 et qui est à la croisée en fait de plusieurs champs universitaires, journalistiques, militants, avec pour vocation d'observer ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se raconte dans les médias et d'y livrer un regard critique, notamment par rapport à la manière dont, à l'époque en 95, les médias rendaient compte des mobilisations sociales, souvent sous l'angle plus des bris de vitrine que des revendications des manifestants. Et donc, voilà, c'est l'idée aussi de faire de la question ou de refaire de cette question des médias une question véritablement politique, c'est-à-dire qu'elle soit mise à l'agenda des partis politiques, des mouvements sociaux, des syndicats, pour considérer qu'il ne peut y avoir de transformation économique, sociale et écologique sans une transformation du secteur des médias.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ?
L'association aujourd'hui compte 4 salariés pour 3 équivalents temps plein et après on compte aussi sur un tissu de bénévoles qui nous aide dans notre travail d'observation, de rédaction. Et dans les mobilisations aussi pour faire connaître notre travail.
Alors pour vous lire, pour lire vos décryptages donc, du traitement médiatique, il y a plusieurs façons de vous suivre. Vous êtes en ligne sur le site acrimed.org. Vous êtes également du côté de Blast. C'est un format assez nouveau ça, on vous retrouve une fois par mois ?
Oui, alors l'émission Quatrième Pouvoir, on l'a entamée en mai. C'est un partenariat qu'on a lancé avec donc, la chaîne sur Internet Blast. Et donc oui, c'est une émission mensuelle. Le premier épisode revenait sur le traitement médiatique du conflit entre Israël et Palestine, notamment enfin, à la faveur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Le deuxième revenait sur la question du journalisme politique et le troisième, aux surprises, est sur la question de médias et extrême droite.
Donc on le redit, Blast, c'est ce média indépendant à retrouver en ligne qui publie des vidéos, des émissions assez régulièrement. Et c'est un média qui avait été lancé par Denis Robert, journaliste, entre autres, puisque c'est toute une équipe qui mène ce projet-là. Vous avez aussi une revue qui s'appelle Média Critique. Le prochain numéro, eh bien, il s'apprête à sortir. On est en plein dans l'actualité. Ça sort le 28 juin et vous explorez là aussi un thème incroyable.
Oui, la notion du macartisme médiatique qu'on dénonce depuis quelques temps et qui s'est exacerbée véritablement à la faveur justement de cette période ouverte par les attaques du Hamas le 7 octobre et là d'autant plus depuis l'annonce de la dissolution, mais on va en parler je pense par la suite.
Je donne juste un peu le sommaire, il y a question de purge politique à France Inter, de médias façon Orwell ou encore de la déshumanisation continue en Palestine, tout ça c'est à lire très bientôt, je crois qu'on peut commander son numéro directement sur le site internet.
Oui tout à fait, on peut s'y abonner et recevoir donc le numéro directement chez soi ou les trouver dans des librairies qui sont partenaires, je précise qu'à Rennes on est distribué dans certaines librairies, je ne sais pas si on peut citer de nom.
Allez, allons-y.
Eh bien la librairie Le Fayer nous distribue depuis peu et voilà, on est en pour parler avec d'autres librairies pour essayer de caler la revue puisqu'on n'est pas diffusé par les kiosques quoi.
Média Critique, c'est le nom de cette revue qui va sortir très bientôt son 51e numéro. Alors, il y a quelques semaines, vous étiez aussi présent face au public pour une rencontre ici à la Maison des Associations à Rennes. Le thème du jour, économie des médias et incidence sur le traitement médiatique. On va partir de là, puisque nous avons un panorama médiatique déjà bien installé depuis un moment. Comment on peut le décrire, cet univers ? Tout d'abord, sujet à la concentration, c'est le fait le plus important à expliquer aux auditeurs.
Oui, le fait le plus important, en tout cas, c'est notre cheval de bataille, nous, depuis la création de l'association, de dénoncer la concentration et la financiarisation du secteur des médias et les conséquences que ça peut avoir sur les conditions de production des journalistes et donc sur l'information qui est partagée et sur la manière dont tout cela structure le débat public. À notre sens, en fait, cette forte concentration qui aujourd'hui n'est plus une nouveauté, enfin je veux dire, elle est constatée par de nombreux acteurs, on n'est plus les seuls à dénoncer cette forte concentration, elle a une conséquence directe sur le reflet ou non du pluralisme des idées dans la société. Et cette question-là a explosé ces dernières années, il commence à y avoir une véritable prise de conscience, mais hélas peut-être un peu tard, autour de la figure de l'entrepreneur Vincent Bolloré, et de la véritable bataille culturelle hein, qu'il dit mener par le biais de ses médias. Et donc il y a une vraie réflexion à mener en fait, dans la manière aussi dont les citoyens s'en saisissent, dont les autorités de régulation agissent, viennent réguler un peu cette concentration, et comment ce pluralisme est reflété ou pas. Bon, c'est une vaste question et elle ne s'arrête pas qu'à Vincent Bolloré d'ailleurs. Enfin, effectivement, il y a plein d'autres intérêts, d'autres milliardaires ou d'autres groupes industriels, militaro-industriels qui possèdent des médias ou des groupes de téléphonie mobile par exemple.
Bah, citons quelques autres noms, Arnaud Lagardère ou encore Rodolphe Saadé qui a fait parler de lui assez récemment. En tout, je disais que ce sont 11 milliardaires en France qui détiennent 80% de la presse quotidienne régionale, presque 60% de la part d'audience en télé et à peu près la moitié des audiences radio, les chiffres en tout cas pour 2023. Bon, en quoi c'est un problème ? C'est peut-être un mythe ? C'est ces patrons qui passent un coup de fil parce qu'il y a un article qui dérange ?
Alors, ça, bien évidemment, ça pourrait paraître caricatural de la sorte, hein, parce que évidemment que Bernard Arnault ne vient pas tous les matins dans la rédaction du Parisien donner ses directives. Mais c'est bien évidemment beaucoup plus subtil que ça. Et la sociologie du journalisme a déjà montré depuis longtemps, en fait, la manière dont s'exercent des effets d'autocensure aussi sur les journalistes qui travaillent dans ces journaux-là. Possédés par de grands intérêts financiers, on ne mord pas la main qui nous donne à manger. Donc à un moment donné, c'est dans la relation aux annonceurs, mais c'est aussi dans la relation aussi aux intérêts économiques externes, en fait, qu'on ne vient pas égratigner et qu'on ne vient surtout pas questionner aussi. Et c'est d'autant plus problématique aussi quand il s'agit d'entreprises qui bénéficient par ailleurs ou qui vivent par ailleurs de la commande publique aussi. Je pense notamment à une grande entreprise de construction qui est aussi une grande chaîne de télévision, enfin vous voyez de qui je parle. Et donc voilà, tout ça c'est éminemment problématique sur le plan démocratique, sur le plan de la distribution des idées. Ça avait été pointé pourtant à l'époque par le Conseil national de la Résistance. Hein. On avait des dispositions législatives en 44-45 qui étaient revenues sur déjà une grande époque de concentration dans les années 30. Malheureusement, ce cadre législatif, il a été progressivement détourné, on y a renoncé et aujourd'hui, on a un cadre législatif qui est non seulement obsolète, mais qui est en plus très peu ambitieux en matière de régulation de cette concentration. Ouais.
C'est marrant parce que cette histoire de ne pas émettre de critiques contre son employeur, en fait, ça a été vraiment explicitement dit comme tel par le célèbre Cyril Hanouna sur son émission de télévisée où il reprochait donc à celui qui est ensuite devenu député, Louis Boyard, d'émettre une critique envers Vincent Bolloré, qui est donc le propriétaire de la chaîne C8, entre autres médias. Alors aujourd'hui, y compris sur une radio comme Canal B, il y a tout un champ d'éducation aux médias qui s'est développé dans le sillon en fait des attentats terroristes à Charlie Hebdo. Il y a un soutien politique manifeste aujourd'hui à ces projets-là. C'est avant tout à destination d'un jeune public. Est-ce que finalement il manque pas des outils plutôt aux adultes que nous sommes pour comprendre que ce qu'on voit à la télé, mais aussi que ce qu'on lit dans les journaux, ce n'est pas neutre, c'est pas vrai parce que c'est écrit?
Oui, c'est une question en fait qui est très très vaste. Alors oui, d'une certaine manière, on peut se réjouir qu'elle soit devenue un problème public depuis 2015, mais c'est peut-être un peu trop tard, notamment quand on voit le taux d'équipement en termes d'écran des familles françaises. En fait, on a fait très rapidement rentrer beaucoup d'écrans et voilà, on a peut-être un gros défaut en fait de réflexe critique vis-à-vis de la manière dont on se sert de ces outils. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'en servir, il s'agit d'apprendre à bien s'en servir et notamment avec un regard critique dans le rapport à l'information. Je ne sais pas si énormément de moyens, il y a des choses qui sont développées effectivement, des résidences par le biais du ministère de la Culture, des programmes avec le ministère de la Justice, il y a effectivement des choses qui se font au sein de l'éducation nationale. Pour autant, oui, il y a toute une tranche d'âge aussi qui n'est pas concernée par ces questions, ou peu concernée, qui est effectivement celle des adultes, des actifs, des votants notamment, enfin d'une grande partie des votants. Et effectivement, il y aurait peut-être à mener aussi des campagnes de sensibilisation, d'outillage, de formation de ces publics-là, notamment parce que, bah voilà, après, c'est aussi la manière dont on perçoit les médias, ça a une conséquence aussi sur la manière dont on construit nos choix, et notamment nos choix de consommation ou nos choix politiques.
Alors, je pense qu'il y aurait des, notamment dans le champ politique, des voix que j'ai déjà entendu s'élever qui diraient, mais c'est prendre les électeurs pour des cons, c'est les infantiliser. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
À l'inverse, il y a aussi tout un mépris de classe qui s'exerce quand il s'agit d'instrumentaliser un peu la panique morale autour des fake news, qui est un peu un des angles par lesquels s'est beaucoup construit l'éducation aux médias après 2015, après les attentats, notamment celui contre Charlie Hebdo. Alors certes, c'est un problème, la question des fausses informations, notamment en matière politique, aujourd'hui, c'est effectivement comment on détourne ou qu'on manipule les esprits. Pour autant, ce n'est pas que le seul problème. Il y a plein d'autres problèmes à aborder dans la manière dont l'information se produit et dont elle est diffusée. On a la concentration et la financiarisation, pour nous, ça en fait partie. Et après, au-delà de ça, effectivement, la question de l'éducation aux médias, c'est une question qui traverse toute la société, toutes les classes d'âge, mais aussi les catégories socio-professionnelles sont concernées. Et je veux dire, on a eu même jusqu'à des ministres qui ont proféré des fausses informations et qui n'ont jamais fait de mea culpa par rapport à ça. Donc il y a un moment où il faudrait prendre cette question à bras-le-corps et qu'elle soit véritablement une question démocratique, en fait, et qu'elle ne soit pas cantonnée uniquement à des sphères de l'éducation, mais qu'elle traverse aussi, enfin, qu'elle passe aussi par l'éducation populaire, par de la formation professionnelle, qu'elle pénètre plein d'espaces sociaux parce qu'on en manque, effectivement.
Et puis c'est d'autant plus important dans une société, on va dire, où on subit parfois une forme d'infobésité, beaucoup, beaucoup d'informations au quotidien, et puis tout ça à un rythme qui s'est accéléré et qui continue encore à s'accélérer. Alors là, on se retrouve à la veille d'élections législatives, on le redit, les 30 juin et 7 juillet, suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. L'extrême droite est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Est-ce qu'il faut aller chercher une responsabilité du côté des médias, une responsabilité parmi d'autres?
Du point de vue d'Acrimed, on dira évidemment. Pour nous, c'est l'exacerbation en fait de tendances qui sont à l'œuvre depuis plusieurs mois, j'allais dire même presque depuis plusieurs années. Notre dernier livre, notre dernier ouvrage en date, datant de mars 2023, s'appelait Les médias contre la gauche, revenait justement sur ces campagnes médiatiques que nous, on dénonce au travers du journalisme de cours, du journalisme de classe, c'est-à-dire un journalisme qui va avoir tendance à valoriser les paroles officielles sans jamais refléter des paroles plus contestataires, valoriser le point de vue des catégories dominantes de la société au détriment de catégories plus subalternes. Alors je dis pas ça du tout au sens péjoratif, je parle au sens ne serait-ce que dans le rapport au travail. L'ARCOM elle-même constate par exemple que les ouvriers et les employés, en dépit de représenter encore pas loin de 20% de la société, de la population active, sont très peu représentés dans les médias audiovisuels. Là où les classes dominantes représentent près de 70% du temps d'antenne. Il y a vraiment aussi une réflexion du côté de ce pluralisme-là aussi, pas uniquement du pluralisme partisan à mener. Et donc, voilà, ce journalisme de classe, ce journalisme de cours, voire aussi ce journalisme de démobilisation sociale qui a œuvré aussi durant le mouvement des Gilets jaunes, ce journalisme de préfecture aussi qui a tendance aussi à ne refléter uniquement, encore une fois, que les paroles officielles et à criminaliser les paroles contestataires, il a une conséquence à terme, c'est qu'au final, on est dans une période qui s'est ouverte sur une banalisation de la parole d'extrême droite, voire maintenant, c'est comme presque si elle était considérée comme dans le champ républicain, face à une criminalisation des options plus progressistes ou de gauche, qui essayent de proposer des alternatives, et qui se voient, elles, taxées aujourd'hui, par exemple, d'antisémitisme, avec une imputation qui est très peu sourcée, en fait, qui revient à l'envi, mais qui se fait plus sur une forme de journalisme de commentaire, mais qui n'est jamais très étayé, en fait. Le problème, c'est qu'il est tellement massif, il est tellement répété, que ça finit par rentrer dans les esprits, en tout cas, quoi.
Alors, je crois qu'on peut le dire assez clairement que l'agenda politique du Rassemblement National, il est arrivé sur les plateaux télévision via des médias très clairement avec une étiquette partisane. Je pense à tous ces médias de la galaxie Bolloré. Mais ce qui, moi, me surprend, mais je devrais peut-être pas être surpris, c'est que j'ai le sentiment d'un service public qui a plus ou moins consciemment suivi cet agenda imposé par l'extrême droite. Il se passe quelque chose dans le service public qu'on a pourtant jusqu'à récemment considéré comme plus fiable et plus neutre.
Il se passe quelque chose dans tout le spectre médiatique, effectivement. Ça participe de cette banalisation, de cette normalisation du discours d'extrême droite. Effectivement, des médias, les médias Bolloré sont là pour le faire, parce que c'est la vision que défend Vincent Bolloré au travers de ces médias. Mais il y a plein d'autres médias qui ont suivi et qui ont participé littéralement de cette normalisation, de cette banalisation d'extrême droite. On peut se demander, à la faveur des derniers événements, si le service public, effectivement, n'a pas eu sa responsabilité là-dedans, bien évidemment. Enfin, nous, on l'a même parfois documenté. Ça peut être sur la manière dont on invite un certain personnel, en fait, avec une certaine récurrence. Là, il y a toute la question aussi de la manière dont Guillaume Meurice, en fait, en dépit, en fait, d'un jugement du tribunal de Nanterre qui n'a pas donné suite à l'affaire. La caractérisation du délit n'était pas là. C'était plutôt l'exercice de la liberté d'expression. On voit que la direction de France Inter en a décidé autrement, alors sous un prétexte qui est fallacieux en plus, qui est celui de...
La loyauté.
Voilà, une déloyauté répétée. Et puis on a vu ce que ça a entraîné par la suite avec toute une série de personnels, d'humoristes notamment, qui ont quitté l'émission. Mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de personnels de Radio France qui se sont mobilisés justement face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. Et on peut effectivement abonder dans ce sens.
On peut ajouter qu'il y avait également ce projet de fusion au sein du service public d'information de Radio France et France Télévisions, alors qui est mis en suspens avec la dissolution de l'Assemblée nationale, qui peut-être reprendra, ou voire qui sera présenté sous une forme encore plus radicale si le Radio France et France Télévisions sont privatisés, mais qui en tout cas laissait là aussi imaginer une mainmise plus forte du pouvoir sur les médias du service public. Pour les élections des deux dimanches à venir, il y a aujourd'hui trois blocs qui se détachent, celui à l'extrême droite, au centre droit, on va l'appeler comme ça, et puis à gauche, dans cette situation politique qui, on le redit, est inédite, puisque le Rassemblement National, possiblement, va se retrouver à la tête d'un gouvernement d'ici deux semaines. Sur le traitement médiatique, qu'est-ce qu'il est en train de se jouer en ce moment? Il y a clairement une forme de différenciation, mais vous l'évoquiez déjà avec le livre qui a déjà été sorti par Acrimed.
Oui, au travers du livre, au travers aussi... alors, il y a les vidéos qu'on fait avec Blast, il y a des vidéos qu'on sort aussi sur notre site. Là, récemment, on en a sorti une qui s'appelle Front médiatique contre la gauche, qui n'est qu'un florilège, une compilation en fait de la manière dont les journalistes s'adressent aux candidats de gauche, ou en tout cas réagissent notamment à l'annonce de l'union qui s'est créée donc au soir de la dissolution.
Et ça commence par la façon de nommer en fait les choses.
Oui, alors je renvoie les auditeurs à ces déclarations, c'est notamment Routel Krief qui parle d'un très grand choc et d'une extrême mauvaise surprise, c'est Françoise Laborde qui parle d'un discours de haine sous-jacent à la France insoumise, c'est BHL qui parle du cynisme érigé en politique. Bon, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a tellement, et encore une fois, la vidéo est très parlante, mais ce climat-là, encore une fois, ce climat de macartisme médiatique, il est là depuis longtemps, il s'est exacerbé à la faveur du traitement de la question palestinienne. On a l'impression qu'en fait, la grande bourgeoisie, qu'elle soit au pouvoir ou qu'elle soit à la direction de certains médias, est davantage encline à, normaliser encore une fois le RN et à l'accepter comme une proposition qui serait aujourd'hui tout à fait républicaine, alors que ça soulève énormément de vagues de résistance et d'opposition dans la société, de beaucoup de gens qui alertent sur le péril de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Et à l'inverse, une criminalisation, je me répète un peu, mais d'une certaine partie de la gauche, de cette gauche considérée comme radicale, alors que, bon là je sors un peu de mon domaine d'intervention, mais alors que quand on voit le programme de la NUPES ou le programme du Front Populaire, il n'est pas aussi ambitieux que celui de l'alliance de 71 entre socialistes et communistes. Enfin, je veux dire, il y a eu un tel glissement vers la droite, que ce soit dans l'échiquier politique ou dans la manière dont on le commente aussi au travers des médias, qu'effectivement, toute option un peu alternative, contestataire, et notamment qui remet en question l'ordre néolibéral tel qu'il est, tel qu'il va, apparaît comme à criminaliser, en tout cas dans la bouche de certaines directions journalistiques et de certains éditorialistes qui, s'en prennent à cœur joie. À LFI notamment.
On le redit, de toute façon, le Conseil d'État a tranché. Ce nouveau Front populaire est étiqueté comme étant à gauche et non à l'extrême gauche, alors que le Rassemblement national est, lui, bien catégorisé dans l'extrême droite, ce qu'il a contesté d'ailleurs assez récemment. Dernière question. Aujourd'hui, en France, nous avons l'ARCOM, ex-CSA, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui semble y aller assez frileusement. Je pense évidemment à ce rappel à l'ordre suite au lancement d'une nouvelle émission de Cyril Hanouna sur Europe 1, où la première semaine, l'ensemble des invités étaient donc situés à l'extrême droite. Ça a changé un petit peu sur l'émission d'hier. Je suis allée écouter, avec notamment la majorité présidentielle qui était représentée. Mais en tout cas, on a l'impression que les garde-fous ont sauté. Je ne sais pas s'ils ont déjà été là, mais...
Alors oui, là, ça ouvre un long chapitre qui est celui de considérer quelle est l'effectivité du travail de l'ARCOM. On aurait matière à en parler. Il y a eu récemment une commission d'enquête parlementaire sur ces questions, sur les futures attributions de fréquences de TNT, et justement où notamment le rapporteur a essayé de savoir un peu comment l'ARCOM travaillait. Pour mémoire, vous vous rappelez peut-être que le président de cette commission, issu de la majorité présidentielle, était allé, avant la fin même des travaux de la commission, pavaner chez Cyril Hanouna pour finalement lui dresser des éloges et lui dire que finalement il respectait tout à fait très bien la législation, ce qui est totalement faux. Enfin, Cyril Hanouna est parmi les personnages les plus sanctionnés par l'ARCOM, même si, comme vous l'avez dit, ce sont des sanctions qui sont relativement timorées et qui posent plein de problèmes dans la manière dont on mesure, ne serait-ce que le pluralisme. Encore une fois, l'ARCOM se borne aujourd'hui à mesurer essentiellement le pluralisme partisan. Or, on pourrait tout à fait étendre ça à la manière dont certains éditorialistes prennent la parole et de facto reflètent aussi plus certaines opinions politiques que d'autres. Il y a eu ce graphique qui a beaucoup circulé un peu à la veille des élections européennes et qui a été publié notamment par le journal Ouest France, issu de l'agence Tagadé, et qui montrait que, en termes d'occurrence en tout cas, la personne de Jordan Bardella avait été très largement surexposée par rapport aux autres. Glucksmann arrivait en second, mais avec 6000 occurrences en moins déjà, je crois.
Donc on parle d'apparitions, de citations, d'interviews, c'est vraiment assez vaste comme...
Oui, c'est vrai qu'il faut aller dans le cœur de la méthodologie, mais ça n'empêche que ce rapport aux occurrences en fait montre que si ça n'est pas tant forcément le fait de la campagne ou d'une invitation politique en tant que telle, ça veut dire que quand même les journalistes en parlent et ça contribue encore une fois à dresser une sorte de bain dans lequel tout le monde évolue et qui participe encore une fois de cette normalisation, cette banalisation de l'extrême droite face à une criminalisation d'autres que l'on considère comme n'étant plus dans le champ républicain. Et donc là, il y a vraiment une inversion de la pensée qui est quand même très préoccupante, de penser que des ennemis de la liberté maintenant sont plus républicains que d'autres qui se battent pour la justice sociale.
Danger mortel pour le pays, quoi.
En tout cas, il y a plusieurs organisations qui se sont prononcées en faveur de cela et qui sortent un peu justement de leur devoir de réserve. Nous, ça fait partie de notre cas aussi. On n'a pas pour tendance de se prononcer pour une formation politique, mais là, le péril, ne serait-ce que vis-à-vis de la liberté d'expression et du travail des journalistes, en fait, nous semble suffisamment important pour pouvoir se prononcer, en tout cas contre l'extrême droite, de manière ferme, c'est sûr.
Et on le cite, ce mouvement que vous soutenez publiquement, c'est le nouveau Front populaire, à l'image en fait du soutien qui a été apporté par de nombreux syndicats, mais aussi associations, j'en cite quelques-uns, le Planning Familial, l'association Bloom, qui défend les océans, ou encore la Confédération Paysanne pour le Champ Agricole. Je vous représente, Nils Solari, vous êtes donc formateur en éducation aux médias et puis salarié de cette association qui s'appelle Acrimed pour Action Critique Média. On vous retrouve en ligne sur un site internet, également évidemment sur une page Facebook, et puis vous êtes aussi à aller écouter du côté de Blast avec l'émission Quatrième Pouvoir qui est diffusée une fois par mois. Blast, un média indépendant qu'il est précieux d'aller suivre en cette période un peu agitée politiquement. Merci beaucoup.
Merci.
Bolbec sur Canal B avec le morceau Vengeance Tropicale. C'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et ce titre, vous le retrouverez sur l'album Victime de l'Aube. Ça va sortir très bientôt, le 5 juillet, chez Batov Records. Ce sera le debut album, le premier disque pour ce duo d'amis qui se sont rencontrés dans l'enfance du côté de Rouen. Vous venez de les entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission à écouter, en tout cas jusqu'à la fin de semaine, à chaque fois à 17h, puis en rediffusion le lendemain à 8h. C'est sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, où vous pouvez retrouver ensuite les podcasts de l'ensemble des émissions réalisées, l'émission d'information locale, mais aussi tous les autres programmes imaginés et animés avec passion par des salariés et des bénévoles. On continue l'émission du jour avec un portrait. Alors, si vous ne le savez pas, cette année, votre radio préférée fête ses 40 ans. On organise plusieurs choses tout au long de l'année pour fêter ça. Le prochain événement, c'est en septembre. Mais je réalise aussi à cette occasion des portraits de bénévoles, les petites mains passionnées qui font vivre le projet associatif au quotidien. Aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui n'est pas sur les ondes, mais plutôt dans les ondes. C'est Thierry qui est là depuis le début de l'aventure. L'ensemble des portraits est ensuite à retrouver en ligne sur un article disponible en page d'accueil de canalb.fr.
40 ans, non ce n'est pas possible. 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans, mais 40 ans déjà, je n'ose pas le croire. 40 ans, 40 ans.
C'est pas mignon.
Here I sit in the prison of my mind.
C'était avant Canal B. En fait, comme j'adorais les ondes, voilà, je m'étais fabriqué un petit émetteur FM. Ça, c'est quand j'étais chez mes parents. Alors moi, je suis Thierry. Je fais partie de Canal B depuis le tout début et je ne suis pas particulièrement animateur, je ne fais pas d'émission. Mon truc, c'est plutôt la partie technique. L'idée, c'était de, quand on descend en ville, faire des courses, d'avoir notre propre musique. Donc j'avais fait un petit émetteur, j'ai mis l'antenne sur le bord de la fenêtre et quand on prenait la voiture, j'avais une platine cassette aussi qui tournait en boucle, il y avait de l'auto-reverse. C'était bien et on partait faire les courses. À l'aller, on avait notre musique. Au retour, on avait toujours notre musique. Et ça, c'était cool.
Est-ce qu'on peut dire qui tu es hors de la radio Canal B ?
Je travaille dans une entreprise qui s'appelle TDF, où je travaillais, puisque je suis depuis très peu, moins d'un mois, en retraite, active, en tout cas active à Canal B. Et l'entreprise, en fait, est un opérateur qui diffuse, entre autres, la télé numérique sur les ondes, qui diffuse la FM, qui diffuse le DAB+, qui a des réseaux de fibre optique, des grandes artères, qui a du data center, enfin plein d'activités liées à tout ce qui est ondes.
Comment est-ce qu'en 1983, tu te retrouves dans le projet Canal B ?
Il y avait l'avènement des radios dites libres, parce qu'à l'époque, on avait France Inter, France Culture, France Musique. En Bretagne, on arrivait encore à recevoir la BBC, ce qui était assez intéressant, puisque la BBC avait des programmes musicaux qui étaient quasiment 3 mois en avance par rapport à ce qu'on avait en France. Et donc il y avait des trous, il manquait quelque chose. Et comment je me suis retrouvé, c'est qu'on était une bande de copains, on se retrouvait sur Bru, on faisait la fête là-bas, on était des gens de Rennes, de Châtillon, de Chartres, de Bru aussi. Et un jour, dans une grande fête, voilà, il y a le code des dents, on s'y dit, tiens, on va faire une radio. Et c'est parti comme ça. Et après, il y a des collègues qui ont trouvé un local, la MJC de Bru. Il y avait des locaux de libre. Ils ont taillé une grande fenêtre à l'intérieur pour faire studio régie. Et puis, il manquait un émetteur FM, parce qu'on avait les platines cassettes, platines disques, magnéto à bande. Il n'y avait pas de CD, puisqu'à l'époque, le CD n'existait pas encore. Et du coup, j'ai créé un émetteur FM. J'avais déjà un embryon. Je me suis fait un ampli pour mettre derrière, pour avoir à peu près 50 watts. Et comme il manquait une antenne, ça a été du fait maison aussi. On a réalisé l'antenne voilà, avec de la résine, le club kayak de Bru, et puis la ferraille. Et puis, on a commencé à diffuser comme ça.
Quel âge tu avais ?
C'était en 83, j'avais 22 ans.
Et alors, tu avais déjà un goût pour la bidouille, le bricolage, le son, ou ça s'est développé en étant sur le lancement de la radio ?
Non, j'ai toujours eu un goût pour le son, parce qu'à l'époque, j'avais fabriqué mes propres enceintes, j'avais un ampli que m'avait offert mon père, que j'avais déjà commencé par ouvrir et modifier. J'ai toujours été intéressé par les ondes, j'avais plein de bouquins sur les ondes. Et donc, naturellement, je m'étais mis à la CB, mais à l'époque, parce qu'il y avait ça, c'était assez facile, mais ce n'était pas forcément satisfaisant.
CB pour Citizen Band, un moyen de communication entre citoyens via les ondes, évidemment.
Il y a la partie radio amateur. L'inconvénient, c'est qu'il fallait se lever très tôt le matin pour profiter de la propagation, ou alors plus tard le soir, ça c'était moins gênant. Et puis, il s'est trouvé que j'avais fait un émetteur FM, et puis il y a cette idée de créer une radio. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir du matériel qui tourne 24/24, qui soit le plus fiable possible. Et puis, c'était à destination d'auditeurs qui étaient locaux, et avec de la musique, qui fasse vibrer tout le monde. Et ça, c'était plutôt cool.
Quel souvenir tu gardes des premières années où la fréquence, d'ailleurs, n'était pas stable ?
Non. La fréquence a énormément varié. L'idée, c'était de ne pas perturber les radios qui devenaient, au fil du temps, autorisées, puisque nous, on avait fait le choix de rester pirates. Donc, quand une radio venait à s'installer quelque part, on regardait tout le temps là où il y avait le plus de place, entre deux fréquences utilisées, et on se mettait au milieu. Donc la fréquence variait régulièrement. Et la dernière fréquence que l'on a pu avoir en fréquence pirate, c'était 99,9 MHz, qui était vraiment sympa pour nous. Et c'était en février 92. Et le 13 mai 92, on est passé sur le 94 MHz, mais là, cette fois-ci, en autorisé. Et on n'a pas eu de problème pour avoir l'autorisation, puisqu'on respectait naturellement une charte sur ce qui passait à l'antenne.
Tu disais que tu as fait de la radio, tu as participé à des émissions, ça a duré combien de temps ?
Eh bien, c'était au tout début de la radio, c'était en août 83, l'association Canal B n'existait pas encore. Et c'était avec un copain, Eric, et on avait décidé de faire une émission sur la chanson française. Et comme on était amateurs de voile, en fait, le samedi, on partait faire de la voile, et l'émission avait lieu juste avant. Et la fin de l'émission, c'était une partie destinée à la météo des côtes, sur les côtes bretonnes, qui servait à ceux qui faisaient de la voile comme nous, et on partait directement faire de la voile suite à l'émission. Et ça, ça a duré quelques mois, parce qu'en octobre, moi, j'ai dû partir faire mon service militaire, et donc ça a mis un coup d'arrêt à ma participation. En fait, moi, j'ai perdu de vue Canal B, parce que je suis parti faire l'armée, je suis parti travailler dans l'Est de la France. J'ai réussi à revenir en Bretagne dans les années 89. Et là, j'ai regardé sur la FM, j'ai pas trouvé Canal B. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est peut-être mort. Et en fait, en me promenant dans Rennes, j'ai vu des affiches, enfin une affiche entre autres, où c'était marqué Canal B, concert, machin. Et là, je me suis dit, punaise, il y en a qui sont gonflés, ils ont repris le nom de Canal B pour faire des concerts. Voilà, le temps passe, puis un jour je me suis dit, je vais retourner sur Bru. Je suis retourné là où il y avait la maison d'association, elle était rasée. Ensuite j'ai fait les commerçants, et jusqu'à ce que je tombe sur, je crois que c'était le boucher, qui me dit, ouais, je sais pas ce que c'est que votre truc, mais en tout cas, il y a des gens à côté, là, ils perturbent toute la maison avec leur émission, avec leurs antennes. J'ai dit, ok, on tient une piste. Je lui ai demandé où c'était, et il me dit, ouais, il y a un truc des jeunes, Grand Logis. J'arrive près du Grand Logis, il y avait des marches, et puis là, j'avance, il y a un gars qui descendait les marches, j'ai entendu de la musique, et effectivement, c'était Canal B.
Que tu avais retrouvé.
Voilà. Et le fait que je les entendais pas, c'est que il y avait un gros problème d'émetteur. Donc la première tâche était de remettre en état l'émetteur.
Là, en 40 ans, est-ce que tu peux raconter un peu l'évolution technologique que tu as observée et dont Canal B s'est saisi grâce à tes compétences aussi ?
On a toujours tourné sur du vieux matériel, récupéré à droite, à gauche, sorti des poubelles des fois. Et c'était, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était de retaper. Alors, donc c'est moi qui le faisais, je retapais des vieux émetteurs. Et on a diffusé pendant très longtemps avec du matériel qui datait des années 70. Et on s'est acheté à un moment donné un émetteur plus sympa, un émetteur anglais, avec tout ce qu'il y a de moderne, c'est-à-dire la prise en main à distance. Si l'émetteur a un souci, il envoie un SMS ou un mail. Et ça, c'est ce qui tourne toujours actuellement. Et ça, c'était... On avait acheté l'émetteur en 2016. Donc on est passé d'une pile de matériel qui faisait pas loin d'un mètre de haut à un émetteur beaucoup plus sympa.
Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu pour les auditeurs qui connaissent rien, comment est-ce qu'on émet en fait, et toi, ce que ça t'amène à investir comme chantier entre l'émetteur, ce qui se passe dans ton garage aussi?
Alors le fonctionnement général, on prend le son qui est à la sortie des studios de Canal B, sortie des consoles. Ce son, il passe dans un traitement de son. Ensuite, on a un système avec un PC qui sert à transporter ce signal sous forme de stream vers le point de diffusion, soit le point de diffusion FM ou le point de diffusion DAB. Pour tout ce qui est FM, donc on a un site je vais pas dire actuellement où il est. Le son arrive depuis ce stream, cet internet, vers un système de décodage. On transforme le son en audio. Ce son, il passe dans l'émetteur où on rajoute un signal RDS pour afficher le nom canal B sur les autoradios. Il y a un traitement de son très léger et ensuite ça passe dans l'émetteur, un ampli, et c'est diffusé au niveau des ondes.
Et c'est la même chose pour le DAB, mais sur une autre...
Pour le DAB, c'est différent. C'est EDF qui prend en charge le signal. Donc nous, on leur met à disposition un stream et ils viennent se connecter dessus.
C'est quoi la diversité des tâches sur lesquelles tu es amené à être donc bénévole à la radio ?
Ça me prend un peu moins de temps qu'avant, parce qu'avant, il y avait toute la maintenance des émetteurs, récupérer du vieux matériel, remettre ça en état, ça prenait quand même pas mal de place, trouver de la doc. Là, avec le nouvel émetteur, c'est vrai que ça laisse plus de temps et les temps changent aussi. Actuellement, on veut passer tout ce qui est production sur Linux. On va se débarrasser de Windows. Et c'est vrai que ça demande du temps de trouver certains logiciels. Pour toute la partie stream, je réécris tout en fait. Donc ça prend aussi du temps de préparer tout ça.
J'imagine que quand même la modernité a facilité les choses d'un point de vue technique en 40 ans.
Oui, c'est plus simple et plus complexe à la fois, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc on rentre dans des choses plus complexes, mais on a accès à des possibilités qu'on n'avait pas avant. Là, on est en train de regarder avec Iris, notre nouvelle technicienne, comment changer de console de mixage et passer sur du vrai matériel broadcast avec non plus des raccordements standards, mais on va passer sous un protocole qui s'appelle DANT et on transporte tout en IP, donc ça fait beaucoup moins de câbles. On peut prendre à distance la main sur des machines, c'est beaucoup plus confortable, mais c'est vrai que ça, c'est aussi plus technique. Des anecdotes sur la radio. Un des temps forts, c'était quand le jour où on est passé en stéréo. En 2006, il y a eu un drive-in d'organiser et avec Rémi, un historique de Canal B, mais historique côté technique surtout, et même s'il a fait des émissions. On s'est dit, tiens, c'est l'occasion, en direct depuis le drive-in, de faire un passage de mono à stéréo. Et je me souviens, il y avait les deux écrans et les films allaient être projetés et le son était diffusé par Canal B dans toutes les voitures. Et au moment du go, on a essayé de passer en stéréo. Et ce que l'on n'avait pas forcément prévu, c'est que tous les réseaux téléphoniques étaient saturés. Il y avait tellement de monde autour de nous qu'on avait saturé le réseau. Ça devait être de la 2 ou la 3G. Et on n'accédait plus du tout à l'émetteur, en fait. Et il a fallu attendre à un moment donné que ça se calme. Et à force de lancer des commandes, on a fini par la passer. Mais c'est passé en plein milieu du film. C'est assez marrant.
Je ne t'ai pas demandé si, en termes de musique, puisque tu es auditeur de musique, est-ce qu'il y aurait un groupe que tu as découvert ou beaucoup écouté sur Canal B et dont je pourrais mettre un morceau à la fin du portrait ?
Qu'est-ce que j'avais pu découvrir sur Canal B ? Il y en a plusieurs. J'avais découvert, mais c'est pas un groupe local, c'était Natasha Attack, ce qui était passé sur Canal B. Il y avait Billy the Kid, évidemment, qui est passé dessus.
Et en ce moment, tu écoutes quoi en boucle ?
Alors, ça reflète pas forcément ce que j'écoute, mais je me suis fait un week-end avec des amis où on avait commencé à fredonner Va où le vent te mène d'Angelo Branduardi. Et puis, on a passé le week-end là-dessus. Et le problème, c'est que ça reste. Et donc...
T'es là-dessus en ce moment.
Voilà. Autrement, dans les choses que j'écoute en ce moment, y a Dengue Fever, la chanson qui s'appelle Tokay. Qui, je crois, était passé au trans.
Fever avec le titre Toqué sur Canal B. Toqué, qui est le nom d'un lézard, et le bruit fait par ce même animal qu'on retrouve en Asie du Sud-Est. J'en ai croisé quelques-uns il y a de ça un petit paquet d'années. Là, c'était en tout cas le choix musical de Thierry que vous venez d'entendre dans un portrait radiophonique. Ce titre, si vous souhaitez écouter l'album, eh bien, il s'appelle The Deepest Lake. C'est sorti en 2015. C'était le cinquième des 6 disques de ce groupe de rock américano-cambodgien. Vous venez de les entendre où ? Eh bien, sur Canal B, évidemment. Une radio qui, vous l'avez compris, fête 40 ans de radio libre cette année, pourvu que ça dure. En plus des événements, des portraits de bénévoles, nous avons aussi sorti une bière pour cette occasion, brassée en partenariat avec la brasserie Britannis, qui est implantée à Montreuil-sur-Isle, dans le département. Et en ce moment, eh bien, c'est la période pour effectuer sa précommande. Tout le détail est à retrouver en ligne sur canalb.fr, et c'est évidemment à consommer avec modération s'il fallait le répéter. Avant de se quitter, il nous reste la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, deux conseils de sortie. D'abord, ce mardi 25 juin à 18h, il est encore temps de courir à l'espace Ouest France à Rennes pour une rencontre littéraire qui est organisée en partenariat avec la librairie Comment Dire. Et l'invité, c'est Fanny Bunion, qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps que ça en studio. Elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à l'université Rennes 2, et elle s'intéresse plus particulièrement à l'histoire des femmes, des marges politiques et de la déviance. Elle présentera ce soir au public son dernier livre, L'élection interdite, l'itinéraire de Joséphine Pancalet, ouvrière bretonne. C'est paru cette année aux éditions du Seuil, avec une préface en plus de ça de l'historienne Michèle Perrault. Pour les réservations, ça se passe en ligne sur wizevent.com. Deuxième rendez-vous à noter dans son agenda, c'est une soirée antiraciste organisée par le collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes. Ça se passe mercredi 26 juin à partir de 19h du côté des Ateliers du Vent. Et l'idée, c'est de décrypter de façon collective le programme immigration du Rassemblement National. Y a-t-il trop d'immigrés en France, vrai ou faux ? C'est l'une des questions qui sera posée pour ouvrir la soirée, avant de parler des mesures concrètes qui sont annoncées par l'extrême droite en cas de majorité aux élections législatives. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.